Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais c'est un bonheur pour nous de célébrer cette fête de Saint-Joseph, artisan, en ce dimanche 1er mai. Vous savez que c'est le pape Pie XII qui a institué cette fête du 1er mai afin de christianiser la fête du travail. Vous savez que le 1er mai avait été une fête, on appelait la fête du travail, et ça rappelait une grève qui eut lieu, une grève importante qui eut lieu en Angleterre un 1er mai à la fin du siècle passé. Et alors ces mouvements gauchisants, ces mouvements socialistes ont gardé cette date pour rappeler cet événement et pour entraîner cette lutte des classes, pour entraîner du désordre, un désordre général. C'est vrai, vous savez qu'au siècle dernier, il y a eu des abus, il y a eu de l'exploitation, il y a eu des excès, pas un peu, même un peu beaucoup, d'excès dans l'exploitation des ouvriers, des travailleurs. Mais cela, il faut le savoir, c'est encore une conséquence du protestantisme, une conséquence de la Révolution, qui ont détruit ces institutions du Moyen-Âge, qu'on appelait les corporations, qui était vraiment en fait pour qu'il y ait une bonne harmonie, que tout se passe mieux, que chaque personne faisant partie de ces corporations soit traitée dignement en fils de Dieu. Voyez ? Alors on a détruit ça, qu'est-ce que ça a entraîné ? Le désastre. Alors un excès amène un autre excès, et on essaie de guérir la maladie avec des moyens qui entraînent encore le plus grand dommage. Et alors on vit cette période. Et voilà. Alors, vous voyez, c'est exactement la même façon qui est utilisée pour le sida. Alors, il y a cette maladie du sida. Au lieu de remédier sainement à cette maladie, on enfonce encore pire et puis on aggrave encore la situation. On étend encore davantage le sida sous prétexte de guérir. Vous voyez, c'est une attitude général aujourd'hui. Eh bien, c'était la même chose pour la fête du travail. Alors, cette fête du 1er mai, on l'avait consacrée, donc c'était la fête du travail, et les socialistes utilisaient ce mouvement, les travailleurs, contre le patronat, contre les employeurs, contre les propriétaires. Voilà, c'était cette lutte des classes. Alors, le pape Pie XII, eh bien, a voulu christianiser cette fête en nous donnant un modèle de Saint-Joseph, modèle des travailleurs. Et dans ce monde aujourd'hui aussi, où on perd de plus en plus le sens et la valeur du travail, eh bien l'Église veut nous enseigner la dignité du travail. Voyez ? Et pour cela, nous met en lumière l'exemple de Saint-Joseph. Saint-Joseph qui n'était pas n'importe qui, c'était un descendant de David, donc de la famille royale. Voilà, qui a été décidé par Dieu, et qui était époux de la très sainte Vierge Marie, c'est pas n'importe quoi, père nourricier du Verbe éternel, celui à qui Dieu le Père a confié la sainte famille, eh bien lui n'a pas été dispensé par Dieu de travailler manuellement. Alors l'Église veut nous rappeler cela. Saint Joseph, et qui est appelé dans l'Évangile l'homme juste, l'homme droit, eh bien, exercer son métier, cet humble métier de charpentier, avec toute la conscience professionnelle, on peut se l'imaginer, quelle était l'application de Saint-Joseph dans ce qu'il faisait, avec le plus de perfection possible. Voyez, ce qui sortait de ses mains n'était pas fait à moitié, ni bâclé, mais avec minutie, fait par amour pour Dieu, comme le disait Saint-Paul aujourd'hui dans cette magnifique épître aux Colossiens. L'Église, donc, regarde Saint-Joseph comme le modèle parfait de l'homme qui travaille pour quoi ? Qui ne vit pas pour travailler, non, qui travaille pour vivre, qui travaille donc pour nourrir sa famille, qui travaille pour remplir son devoir de charité envers tous les hommes. Voilà. Et quel est donc l'enseignement que l'Église veut nous donner sur le travail ? Eh bien, l'Église ne fait que rappeler la pensée de Dieu là-dessus, et non pas la pensée des hommes. Comme vous le savez, avant le péché originel, eh bien, Adam et Ève avaient été mis dans ce paradis terrestre, mais pour qu'ils ne soient pas oisifs, eh bien, le bon Dieu leur avait demandé de cultiver, d'entretenir ce paradis terrestre. C'était même très agréable pour eux. Il n'y avait pas le côté pénible qu'on connaît aujourd'hui. Non, c'était même très agréable, très amusant. Un peu à l'image des petits-enfants que l'on met au bord du sable et qui font des petits châteaux de sable. Mais il y a dans la nature quelque chose qui les porte à faire quelque chose, à construire. Mais ça devait être un peu pareil pour Adam et Ève. Ils devaient être tout heureux d'entretenir ce paradis que le bon Dieu leur avait confié, dans lequel il les avait mis. Et tout en faisant cela, ils découvraient les merveilles de Dieu et ils rendaient gloire à Dieu. Voilà à quoi ils passaient le temps, Adam et Ève. Et comme toujours, eh bien, c'est le péché qui vient tout gâter. Voilà. Le péché est venu gâter tout ce beau plan de Dieu. L'homme trouvait dans le travail, avant le péché originel, l'emploi de ses forces corporelles et ses facultés intellectuelles s'appliquaient au service de Dieu et à l'étude de la nature. Eh bien, le péché a modifié la nature primitive du travail. Il a attiré cette terrible sentence qu'on peut lire dans le livre de la Genèse, où Dieu dit « La terre est maudite à cause de toi. C'est par un travail pénible que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Elle te produira des épines et des chardons, et tu mangeras les plantes des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, parce que c'est d'elle que tu as été tiré. Car tu es poussière et tu retourneras en poussière. » Alors le travail, voyez, il porte la marque du châtiment. Cependant, il ne faut pas regarder que le côté négatif, que le côté pénible. Le travail est d'une grande nécessité pour nous qui sommes blessés par le péché originel. Nécessité pour notre épanouissement. Eh oui, contraire à ce qu'on pourrait croire aujourd'hui, où on dit le travail, oh, il faut essayer d'échapper le plus possible, il faut garder les congés et tout. Non, le travail va nous épanouir, épanouit l'homme, épanouit les facultés de l'homme. Par le travail, l'homme va développer les puissances corporelles, les facultés intellectuelles, spirituelles qui lui ont été données par le Créateur. L'homme acquiert l'habileté de ses mains et de son intelligence en exerçant une activité honnête. On le dit, un dicton qu'on emploie souvent, on devient forgeron en forgeant. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Eh bien, c'est pour tout pareil, voyez. Le travail a cet avantage de nous perfectionner. Voyez par exemple quelqu'un qui apprend le métier de, je ne sais pas, tailleur ou menuisier. Au début, il sera peu habile, il plantera les clous de travers, il fendra le bois, ou bien le tailleur, il coupera de travers le tissu ou trop court ou trop grand et les manches seront mal arrangées. Mais avec le temps, avec l'exercice, avec un maître qui le forme, il va devenir un maître tailleur ou un maître menuisier ou tout autre métier, voyez. Donc, il acquiert une perfection. Il s'améliore, ou même le travail intellectuel, il apprendra à raisonner, il améliorera sa mémoire. Voyez ? Donc l'avantage du travail. Saint Thomas d'Aquin nous dit, le travail a quatre fins principales. La plus essentielle, c'est de pourvoir à notre subsistance. Bien sûr, comme je vous le disais, il ne faut pas vivre pour travailler. Mais il faut travailler pour vivre, pour se nourrir. Et c'est d'ailleurs ce que dit Dieu dans la Genèse, tu mangeras le pain à la sueur de ton front. Donc tu dois, pour manger, tu dois travailler. Le Saint-Esprit nous dit dans un psaume, vous vous nourrirez du fruit de votre travail. Et Saint Paul, lui, il nous dit que si quelqu'un ne veut pas travailler, eh bien qu'il ne mange pas. Ce qu'il entend, c'est-à-dire qu'il est tout aussi nécessaire de travailler que de se nourrir. Voilà. Voilà, la première des fins, qui est la principale, selon ce que nous dit saint Thomas, c'est de pourvoir à notre subsistance. Il y en a d'autres qui travaillent en volant, mais ça, c'est, ceux-là, ils la payeront cher. On devient pauvre en volant, disait le curé d'Ars. La deuxième fin du travail, c'est d'éviter l'oisiveté. L'oisiveté qui est la source de nombreux maux. L'oisiveté enseigne tous les vices, nous dit le Saint-Esprit dans le livre de l'Ecclésiastique. Bien sûr, le travail n'est pas le seul moyen de chasser l'oisiveté. Il y a aussi le jeûne, il y a aussi la pénitence, il y a la prière, il y a la méditation, la contemplation des mystères de Dieu, et la contemplation ou bien la méditation des fins dernières. Tout ça, ça peut aussi, bien sûr, chasser l'oisiveté. Mais comme de toute façon, il faut travailler pour vivre, eh bien, c'est encore un avantage. C'est qu'aussi, ça nous aide à chasser l'oisiveté. La troisième fin que nous donne saint Thomas, c'est que le travail réprime la concupiscence en mortifiant le corps. Et c'est vrai, celui qui s'adonne à son travail avec application, avec ardeur, tout ça, il n'a pas le temps de penser et de rêvasser. Vous voyez, il est occupé à ce qu'il fait et son esprit est appliqué à ça et puis ses pensées sont chassées par cela. Et la quatrième fin que nous propose saint Thomas du travail, c'est le travail va permettre de faire l'aumône, voilà, de subvenir aux nécessités du prochain, des pauvres ou des œuvres de Dieu. C'est la quatrième fin que propose saint Thomas. Alors, mes bien chers fidèles, vous comprenez l'importance du travail dans l'éducation des enfants. Aujourd'hui, on a un peu tendance à dire « Oui, il ne faut pas trop faire travailler les enfants, autrement on va nous prendre pour les profiteurs, et puis il ne faut pas les fatiguer, autrement ils seront peut-être révoltés. » C'est toutes des histoires, ça. Vous voyez, des histoires qui ne tiennent pas debout. Non, le travail est très éducatif. On n'a jamais vu autant de délinquance qu'aujourd'hui où on ne fait pas travailler les enfants. Autrefois, ça n'existait pas, toute cette délinquance. Il y avait quelques cas par-ci, par-là. Mais il n'y avait pas. Qu'est-ce qu'on faisait avec les enfants? On les emmenait au champ, à la campagne, et puis dès qu'ils savaient marcher, on les faisait garder les vaches ou les troupeaux. Mais ça les formait. Voyez, ils se fortifiaient. La même question de santé, ils devenaient meilleurs. Il faut aussi, donc, ça fait partie de l'éducation. Voyez. Alors il faut penser à ça. Voyez. Si... Ça évitera d'aller à la drogue, ça évitera d'aller à la débauche, ça évitera tous ces groupes de jeunes qui se réunissent, qui flânent les rues et les places publiques et qui montent des coups, qui cherchent à faire du vandalisme. Pourquoi ça? C'est des jeunes qui sont laissés à eux-mêmes, on leur a pas appris à travailler. Alors ils feront ça, il faut aussi leur donner le goût du travail. Et alors, si vous leur donnez le goût du travail, ils le feront d'eux-mêmes. D'où l'importance d'avoir un jardin potager. Voilà. Allez, faites venir les petits à désherber, qui distinguent les carottes des mauvaises herbes. Et on raconte une histoire qui est vraie. Un jour, on disait à des religieuses d'aller... C'était nos religieuses. Bon, d'aller chercher des carottes au jardin. Ils n'ont pas trouvé de carottes. Ils s'attendaient à avoir un paquet de carottes avec le prix, l'étiquette, et puis en plastique. Vous voyez, dans les paquets en plastique, ils n'ont pas trouvé ça. Ils sont rentrés, ils n'ont pas trouvé de carottes. Et ils ne savaient pas ce que c'était. Les gens de la ville, ils n'ont pas été formés. Ils n'ont pas le bon sens. Vous voyez. Alors, il faut apprendre ça aux enfants. Apprendre à travailler avec application. Et ils auront le goût du travail. Ils aimeront cela. Ils deviendront même passionnés. Bon, il faudra les freiner quand ça ira trop loin. Mais... C'est vrai. Je connais des jeunes gens qui ont eu de bons parents, qui les ont élevés, qui les ont appris à travailler déjà depuis très jeunes, au jardin potager. Ils ont pris goût, ils ont été si bien pris qu'ils en sont été passionnés. Un des avantages, c'est que ces jeunes hommes, ces personnes, sont arrivés à l'âge de 23, 24, 25 ans, ils étaient purs. Ils n'avaient pas le temps de s'occuper de toutes ces autres choses-là. Ils étaient tellement appliqués, ils cherchaient à améliorer leur travail, à acquérir encore plus de connaissances. Ils ne s'étaient pas occupés de toutes ces choses-là. Surtout l'adolescence qui est délicate pour ce domaine de la pureté, où la nature s'éveille et ils sont attirés à ça. Et bien alors, en leur appliquant au travail, et bien, ils échapperont à ce danger. Voilà, c'est très utile ce travail pour nous à cause de notre nature déchue. Voilà. Alors il faut savoir apprendre à vos enfants, apprendre à faire la vaisselle. C'est pas bien les machines à laver. C'est un grand dommage pour les enfants. Leur apprendre à voir la valeur des choses, à savoir tenir une assiette, à savoir l'essuyer, à se rendre compte de ce que c'est que le travail, la valeur du travail. Vous voyez, c'est ça. Ça c'est tout. Ça fait partie de l'éducation. La formation. On entend souvent les parents qui disent on aime mieux faire nous, comme ça c'est plus vite fait, c'est mieux fait, c'est vrai, que de faire aux enfants. Mais c'est le travail d'éducation. Et c'est là le rôle de la maman à la famille. Elle prend le temps d'apprendre aux enfants à faire les choses, apprendre à aller éplucher les légumes. C'est pas fait pour les garçons. Si, c'est fait pour les garçons aussi. Vous voyez, ça fait partie de l'éducation. C'est ce que le bon Dieu a voulu. Et ça donnera des gens équilibrés. Des gens de bon sens, et pas de ceux qui planent à haute altitude et qui n'ont pas les pieds sur terre, non. Yeah. Voilà, je ne veux pas m'allonger, mais enfin, pour attirer votre attention là-dessus, vous voyez, aimons le travail bien fait, oui. Le goût du travail, mais il faut apprendre, c'est sûr qu'au début ça demande un effort, mais c'est normal, on n'a rien sans rien, on ne récolte pas ce qu'on n'a pas semé. Voilà, et puis demandons à ce brave Saint-Joseph, contemplons souvent ce modèle Saint-Joseph. Imaginons ce que ça a dû être, Saint-Joseph dans son atelier. Vous croyez que l'enfant Jésus, parce que c'était le Fils de Dieu, on l'a laissé dans le berceau et auprès des oratoires? Non, il a été à l'atelier. Il a porté les clous, le marteau, il tenait les planches. Il a appris, lui, le Verbe de Dieu, il a appris à planter les clous. Il a appris à faire la vaisselle, chercher l'eau à la fontaine, il n'y avait pas de robinet dans la maison. Il a appris tout cela. Le Verbe de Dieu. Il a sanctifié le travail par son œuvre. Voyez. Voilà, il nous faut revenir à ces valeurs qui forment, qui rendent les gens bons, qui rendent les gens équilibrés, solides, qui leur donnent une santé. Voyez. Voilà. Demandons aussi à la Très Sainte Vierge Marie, eh bien, de nous donner ce goût du travail, cet amour à l'ouvrage, et puis de tout faire par amour pour le bon Dieu aussi. Comme dit saint Paul, tout ce que vous faites, faites-le pour plaire à Dieu, par amour pour Dieu, pas pour vous montrer, pas pour montrer vos qualités aux hommes. Mais non, pas la peine. Ce ne sont pas récompensés, ça. Voilà. Et il est très juste la parole que disait le laboureur à ses enfants. Sachez que le travail est un trésor. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Comment ne pas être aujourd'hui dans la joie de célébrer ce mystère, cette ascension de notre Seigneur dans le ciel? Qu'est-ce que ça a dû être cet événement? Quelque chose d'assez simple pour les apôtres, pour tous ceux qui ont été avec notre Seigneur et qui ont assisté à cette élévation dans le ciel. Mais dans le ciel, quel triomphe a dû être cette entrée de notre Seigneur, le Fils de Dieu qui rejoint son Père du ciel, celui dont il a accompli toutes les volontés. Il est resté, comme nous le raconte l'Épître et l'Évangile, 40 jours, après sa résurrection auprès des apôtres, pour leur donner les dernières instructions, pour qu'ils puissent établir la Sainte Église qui continuera son œuvre sur la terre, l'œuvre de rédemption, pour mettre en pratique ce que notre Seigneur leur a demandé, c'est-à-dire d'aller prêcher cet évangile, cette bonne nouvelle, par le monde entier. De baptiser, c'est-à-dire de transmettre cette vie divine, cette grâce sanctifiante aux âmes et leur donner tous les moyens, voyez, pour être sauvés. Notre Seigneur est allé prendre possession de la gloire qui lui est réservée dans le ciel. Il est, nous dit la révélation, assis à la droite du Père. Mais aussi notre Seigneur est monté au ciel pour nous préparer une place. Oui, chacun de nous a une place réservée. Pour chaque être que Dieu crée, il prépare une place au ciel. Cependant, tous n'arrivent pas au ciel. Malheureusement, c'est ce que nous fait bien comprendre la révélation, c'est ce que nous fait bien comprendre Dieu. Beaucoup voient le chemin, mais peu le prennent. Parce que pour aller au ciel, il faut mériter. Notre Seigneur a aussi mérité, par sa passion, par ses humiliations, par ses souffrances, il a mérité d'entrer dans le ciel. Et nous aussi, nous ne pouvons pas entrer dans le ciel si nous ne méritons pas. Calvin lui disait, « Oh, il n'y a pas besoin de mériter puisque notre Seigneur a mérité pour nous. » Ça ne correspond pas du tout avec ce que Dieu nous a révélé. Non, saint Paul nous dit, « J'achève en moi ce qui a manqué à ma rédemption. » Donc il faut en nous compléter, il faut donc mériter ce ciel, mériter cette gloire. Bien sûr, Dieu pouvait nous donner ce ciel gratuitement, sans que nous n'ayons besoin de faire quelque effort, mais il ne l'a pas voulu ainsi. Aujourd'hui, notre Seigneur est monté dans le ciel, non pas tout seul, il a été accompagné d'un grand cortège. Tous ceux qui étaient dans les limbes, tous ceux qui attendaient, qui ont vécu justement, qui ont mérité dans l'Ancien Testament, et qui attendaient que le ciel soit à nouveau ouvert. Ce ciel qui avait été fermé par le péché originel a été ouvert le jour de l'Ascension. Notre Seigneur est entré donc avec tout ce cortège des saints. Et il a pu leur dire cette belle phrase qu'il nous a dit dans l'Évangile, « Venez les bénis de mon Père, venez recevoir cette couronne de gloire qui vous a été préparée, qui a été préparée à ceux qui ont servi mon Père, à ceux qui ont fait la volonté de Dieu. » Voilà donc ces paroles admirables que nous devons aussi un jour attendre, qu'un jour nous devons nous faire dire, mais pour cela, eh bien, il nous faut suivre le chemin qu'ont tracé avant nous, notre Seigneur et les saints. L'oraison de la messe d'aujourd'hui nous invite à aller au ciel en esprit. Il nous faut penser quelquefois à ce ciel qui nous attend, pour lequel nous sommes faits, cet événement de l'Ascension, nous rappelle le sens de notre vie. Il nous fait bien comprendre que tout sur la terre va passer, qu'un jour nous devons tout laisser, mais qu'il n'y a qu'une seule chose à laquelle il faut nous attacher, absolument, c'est d'arriver à ce ciel, dans ce ciel. Pour y arriver, bien nous le dit notre Seigneur, il faut croire. Mais ça ne suffit pas. Il faut non seulement croire, mais il faut aussi mettre en pratique. Il faut faire la volonté du bon Dieu. Celui qui m'aime pratique mes commandements. Il nous faut donc pratiquer les commandements. Saint Paul appelle cette récompense la couronne de justice. Et les pères de l'Église qui commentent ce passage, cette expression de Saint Paul, disent que cette récompense ne doit être donnée aux hommes que selon les règles d'une justice rigoureuse, oui. D'une justice incorruptible, d'une justice que rien ne touchera, que rien ne fléchira et que rien ne préoccupera. D'une justice qui n'aura d'égard pour personne, qui ne distinguera ni qualité, ni rang, ni naissance, mais qui discernera parfaitement le mérite. Oui, Dieu pèsera chacun de nous dans la balance, mais dans la balance du sanctuaire. Et leur mérite seul sera mis à l'épreuve de son jugement, qui donnera la décision de leur sort. Quiconque n'aura pas l'exacte mesure, même s'il est le plus grand, le plus considéré dans ce monde, eh bien, il sera rejeté. Tout devant Dieu sera personnel. Nous serons pris chacun personnellement. Voilà. Et alors, il regardera nos mérites. À chacun sera rendu selon ses œuvres, nous dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne nous dit pas « à chacun sera rendu selon ses lumières », ni « à chacun sera rendu selon ses maximes » ou bien « selon ses talents ». Non. Il ne dit pas non plus « à chacun cela sera rendu selon ses désirs », s'il a eu de grands désirs, ou bien selon ses projets, ou selon ses intentions. Non. Mais à chacun selon ses actions, selon ce qu'il aura fait, et non ce qu'il aura cru ou voulu faire. À ce moment, eh bien, le temps de la miséricorde, le temps de la grâce sera expiré. Ce sera le temps de la justice qui succédera. Et alors, nous aurons comme arbitre Dieu, Dieu lui-même, ce Dieu souverain, éclairé, ce Dieu souverainement juste, ce Dieu infaillible, ce Dieu inflexible, ce Dieu irrépréhensible, ce Dieu qui connaîtra tout dans les détails, que rien ne lui échappera. Alors c'est ici-bas qu'il nous faut prendre ce chemin. Il ne faut pas se dire, il est un peu facile, on entend assez souvent dire aujourd'hui, « Oh, mais le bon Dieu, il est bon, il ne faut pas se faire de soucis. On ira tous au ciel, il ne faut pas s'inquiéter. Dieu est trop bon, il ne peut pas nous permettre qu'on soit châtié. Ça n'est pas compatible avec Dieu. » Bon, ce sont des ignorants, mais s'ils ne connaissent pas la révélation, et si c'était ainsi, notre Seigneur ne serait pas venu mourir sur la croix. Il ne se serait pas donné tant de peine à endurer ces si cruelles souffrances, si ce n'était pas grave, si c'était si facile. Non, ce n'est pas du tout cela. Il suffit de lire la Sainte Écriture, il suffit de lire la Révélation, d'étudier la Révélation pour se rendre compte que c'est une erreur. Il nous faut travailler, Saint Paul nous dit, il n'y a que les violents, ceux qui se font violence, qui remporteront la palme de gloire, qui remporteront la couronne de gloire. La couronne de justice. Pouvons-nous dire que toutes nos actions sont méritoires? Est-ce que tout ce que nous faisons, nos travaux, ou bien nos souffrances, nos épreuves que nous supportons, est-ce que tout cela peut être utile pour aller au ciel? Hélas, non. Pour que nos actions soient méritoires, il faut des conditions. Il faut tout d'abord qu'elles soient faites librement, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas faites par contrainte, par nécessité. Vous voyez ? Il faut que ce soit des actes libres. Il faut qu'elles soient des actes surnaturellement bons, c'est-à-dire que nos actions soient faites pour un motif surnaturel et non pas pour un motif humain. Par exemple, rendre service à quelqu'un pour se faire bien voir, c'est pas du tout une bonne action qui a un mérite, n'a pas de mérite cette action. Mais il faut faire cette action, rendre service à quelqu'un pour la gloire, par amour pour Dieu. Alors oui, la même action peut être méritoire selon l'intention. Il faut aussi que l'action soit faite en état de grâce. Et ça, c'est un problème important. Il y a des gens qui vivent dans le péché, qui peuvent faire des actions presque héroïques et qui n'ont aucune valeur aux yeux de Dieu. Tout ça sera perdu, quel dommage. Qu'est-ce qu'ils s'en repentiront le jour où ils se rendront compte? Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Eh bien, c'est facile à comprendre. Voyez par exemple quelqu'un qui n'a pas de vie, et ne peut plus commettre une seule action. Quelqu'un qui n'est pas en état de grâce, c'est quelqu'un qui n'a plus la vie divine, qui n'a plus la vie surnaturelle, et donc qui ne peut plus poser un seul acte surnaturel, c'est-à-dire un seul acte méritoire aux yeux de Dieu. D'où l'importance de garder cet état de grâce, cette grâce sanctifiante, voilà, qui va rendre toutes nos actions méritoires, sinon elles seront perdues pour l'éternité. C'est ce que nous dit saint Paul dans cette magnifique épître à la charité. Même si je donne toute ma fortune aux pauvres, donner toute sa fortune aux pauvres, mais ça semble être un acte de charité par excellence. Eh bien, on peut donner toute sa fortune aux pauvres et que ça n'a aucune valeur. Eh bien, c'est si on n'a pas l'état de grâce, même si on donne toute sa fortune aux pauvres jusqu'au dernier centime, ça n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Mais c'est très important de savoir cela, pour que nous veillions de toujours être en état de grâce et que ainsi nos actions, aussi faites dans un but surnaturel, soient méritoires. Car nous aurons le ciel selon les mérites que nous aurons acquis ici-bas. Tous les jours, nous sommes en train d'acquérir les mérites pour notre éternité. Toutes les actions que nous faisons, elles sont méritoires dans la mesure où elles remplissent ces conditions. Donc, d'être faites en état de grâce avec un motif surnaturel. Et bien sûr, librement faites, voyez. Notre Seigneur n'a dit qu'au bon larron, tu seras aujourd'hui avec moi en paradis. Et pourtant, le mauvais larron, il a souffert, il était sur la croix, il en est mort même de ses souffrances, de ce supplice de la croix. Mais notre Seigneur ne lui a pas dit à lui, tu seras avec moi dans le paradis. Et comme quoi il peut y avoir des souffrances qui sont inutiles et des souffrances qui sont utiles. Alors allons un peu aujourd'hui dans le ciel. Regardons un peu tous ces habitants du ciel. Qu'est-ce qu'ils nous diraient s'ils pouvaient nous parler? Mais le bon Dieu ne nous permet pas qu'il nous parle parce que nous devons vivre de la foi. Mais qu'est-ce qu'il nous dirait? Il nous dirait, si vous saviez le bonheur qui nous est réservé au ciel. Alors courage, nous avons vu les mêmes difficultés que vous, même plus encore. Vous savez, ceux qui ont vécu au temps des martyrs, ça n'a pas été amusant. Où ils ont tout perdu, leur fortune, on les a méprisés, on les a rejetés et on les a persécutés. On leur a fait souffrir toutes sortes de tourments. Mais ils ont supporté tout cela justement en vision, en pensant à cette vie heureuse, à cette éternité. Ceux qui racontent un peu les souffrances qu'ont endurées ces martyrs, eh bien nous disent que quand on les amenait dans les arènes à Rome, eh bien ils chantaient. Ils s'encourageaient. Les gens étaient stupéfaits. On les amenait à la mort et ils chantaient. Ils s'encourageaient justement en disant, ça ne durera qu'un moment ces souffrances, mais pour le ciel qui nous est préparé. Alors aussi, il nous faut penser à ce ciel qui nous est réservé. Et ça nous aidera à supporter les croix, les épreuves, les contrariétés, les adversités. Ça nous aidera aussi à faire des sacrifices. Voyez. À nous appliquer, à nous renoncer, parce que la voie qui nous mène au ciel, c'est une voie de renoncement. Que celui qui veut être mon disciple, qu'il se renonce, qu'il prenne sa croix, qu'il me suive. Voilà la voie que nous devons choisir, que nous devons prendre librement, bien sûr, mais pour un bonheur. Eh bien, écoutons un peu ce que nous disent les saints aujourd'hui. Essayons d'y penser dans la journée. Voilà. Qu'est-ce que nous disent nos saints patrons, peut-être dans nos parents, il y en a de ceux qui sont au ciel. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Voyez. Laissez donc, ne vous attachez pas à ces choses qui passeront. Voyez. Ne vous laissez pas séduire par ce monde qui vous trompe, voyez. Par ces séductions. Non, visez quelque chose de plus stable, de plus définitif, la vie éternelle. Alors, ça vaut la peine d'endurer quelques années de souffrance, d'épreuve. Voilà, mes bien chers fidèles, et bien recourons à notre bonne maman du ciel. Ce mois lui est consacré. Aussi, elle veut bien volontiers nous accompagner durant ce pèlerinage terrestre qui doit nous conduire à la vie éternelle. Donnons-lui la main. Comment? Eh bien, par la prière. Restons fortement attachés à elle. Tenons notre chapelet quotidien. Et ainsi, si nous lui tenons la main, si nous lui restons fidèles, si nous cherchons à lui faire plaisir, elle nous conduira au ciel. Et nous obtiendra de nombreuses grâces. Alors réjouissons-nous de ce que notre Seigneur est entré aujourd'hui dans le ciel pour obtenir sa récompense. Là-haut, il est notre intercesseur et il nous appelle, il nous a préparé une place. Et bien que cette place puisse être occupée par nous, que nous ne manquions pas. Il a tout souffert pour nous. Il a fait tout ce qu'il a pu pour nous. Il nous suffit de nous, maintenant, de coopérer à son œuvre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Seigneur aimait à utiliser des paraboles pour nous faire comprendre des réalités peut-être plus difficiles à comprendre. Les paraboles sont tirées de la vie commune, des événements que l'on peut bien comprendre pour nous exprimer des réalités plus élevées. Et cette parabole, eh bien, nous montre ce grand plan de Dieu. Ces noces dont il est question, eh bien, c'est le mariage, l'union de la deuxième personne de la très sainte Trinité avec la nature humaine. C'est le mystère de l'incarnation. Et Dieu, eh bien, à l'occasion de cette union, il organise un grand festin. Grâce à cette union, eh bien, un festin est organisé. Un banquet céleste auquel nous sommes tous invités. Ces invités ont été indignes de cette invitation. Pourquoi ? Eh bien parce que ils étaient tout occupés aux choses de la terre et ce festin ne les intéressait pas. Certains devaient aller voir leur maison de campagne, d'autres devaient s'occuper de leur négoce. On n'a pas le temps de s'occuper du bon Dieu. Alors on ne peut pas venir à ce festin. Alors, ces serviteurs représentent les prophètes de l'Ancien Testament qui n'ont pas été écoutés pour une grande partie, où on a même maltraité, on en a tué. Voilà. Ces serviteurs qui étaient envoyés encore pour appeler tout le monde étaient aussi les apôtres. Et puis tous ceux que Dieu s'est choisi pour a invité tout le monde à ce festin des noces. Et donc, tous nous sommes invités à participer à ce festin éternel, à ces noces éternelles, au ciel en somme. Mais notre Seigneur poursuit cette parabole en nous montrant que le grand maître, le roi, va saluer ses invités, heureux de savoir que la salle est remplie, rempli de tous ceux qui se trouvaient dans les champs, dans les campagnes, un peu partout, sur les places publiques, tous ces malheureux, tous ces estropiés. Et il voit parmi eux un qui n'était pas revêtu de l'habit, de la robe nuptiale, de ce vêtement que l'on revêtait pour assister aux noces, pour assister à ces fêtes. Alors on peut être un peu surpris de l'attitude de ce maître qui demande à ce serviteur le pourquoi il est entré sans ce vêtement nuptial, et celui-ci muet, il le fait jeter dehors, lier les pieds et les mains, et jeter dans les ténèbres extérieures, là où il y aura des grincements de dents. Cette robe nuptiale dont il est question dans l'Évangile représente la charité ou la grâce sanctifiante que vous savez, qui transforme notre âme, qui la rend agréable à Dieu. Cette grâce sanctifiante, nous l'avons reçue au baptême, et si vous avez fait attention à la cérémonie du baptême, à un moment donné, le rituel prévoit que le prêtre met le crémeau ou le vêtement blanc sur l'enfant en disant, recevez cette robe blanche et portez-la sans tache jusqu'au tribunal de notre Seigneur pour avoir la vie éternelle. Eh bien, c'est cette robe nuptiale dont il est question dans l'Évangile. Voilà. L'âme en état de grâce. Jésus veut nous enseigner dans cette parabole que ceux qui meurent revêtus de la grâce sanctifiante participeront à ce banquet. Quant aux autres, ils seront jetés dehors dans les ténèbres extérieures. Selon la loi humaine, et même selon la loi divine, la peine doit être proportionnée à la gravité de la faute. Et ça, on le comprend. Voilà. On serait outré de ce qu'une peine soit au-dessus de la faute commise. Eh bien, la principale injure que le pécheur fait à Dieu en commettant un péché mortel, c'est de tourner le dos à son Créateur, à son souverain bien. Et saint Thomas définit le péché mortel en disant que c'est se détourner du bien immuable. Saint Augustin dit, c'est se détourner du Créateur pour lui préférer la créature. Puisque le plus grand tort du pécheur est de vouloir spontanément perdre Dieu, il choisit entre la créature et Dieu, il préfère la créature et préfère perdre Dieu. Il est juste que dans l'enfer, sa plus grande peine soit la perte de Dieu. Dans l'enfer, on pleure toujours, sans arrêt. Et quel est le sujet le plus amer des pleurs des malheureux damnés? C'est de penser que par leur faute, ils ont perdu Dieu. Non, mes bien chers fidèles, Dieu ne nous a pas mis en ce monde pour jouir des biens terrestres. Non. C'est faux. Elles sont fausses, ces maximes du monde qui disent « jamais mourir, jamais souffrir, mais profiter de tout. Jouir autant qu'on le peut. » Non, Dieu ne nous a pas créés pour cela. La fin pour laquelle il nous a créés, c'est de nous faire acquérir la vie éternelle. Et en quoi consiste cette vie éternelle? Elle consiste à aimer Dieu et à le posséder toujours, éternellement. Ce sera un bonheur sans fin, dont on ne peut pas s'imaginer. Mais celui qui, par sa faute, ne l'obtient pas, il perd Dieu. Et ce sera pour toujours. Il sera pour toujours malheureux, pleurant sans cesse en s'écriant « J'ai manqué ma fin, tout est perdu pour moi. » Perdre Dieu, qu'est-ce que cela peut bien être, perdre Dieu? Oh, on a de la peine à se représenter ce que peut être la douleur de la perte de Dieu. Nous qui sommes sur la terre, on ne comprend pas tellement, on ne saisit pas assez ce qu'est Dieu. On vit de la foi. On n'a pas beaucoup de, disons, de ressentiment, de sévérité de foi. Cependant, on peut se faire un peu une image. On ressent une grande douleur lorsqu'on perd, je ne sais pas moi, une grande fortune. Il y en a de ceux qui se suicident tellement la douleur est aiguë lorsqu'ils ont perdu leur fortune, lorsque leurs entreprises ont mal tourné. Ils ne pouvaient pas supporter cette douleur qu'ils se sont supprimés la vie. Ou bien les grandes douleurs, la perte d'un être cher, la perte d'un enfant chéri pour les parents. Les parents sont inconsolables pour la perte d'un enfant. Ou la perte d'un époux ou d'une épouse chérie. ou la perte d'un fiancé ou d'une fiancée. C'est des drames pour certains. Certains sont même si éprouvés qu'ils en sont marqués pour le reste de leur jour. Et pourtant, ils n'ont pas tout perdu. Ils ont encore leurs amis, ils ont encore leur famille, ils peuvent se raccrocher à quelque chose. Cependant, ils souffrent énormément. Mais qu'est-ce que ce sera la perte de Dieu? La perte du seul être, du seul bien, lorsqu'on passera de l'autre côté de cette vie dans la vie éternelle, il n'y aura plus ni amis, ni parents, ni tout ce que l'on veut. Il n'y aura plus qu'un seul bien, Dieu, le bien infini, le seul qui existera. Et on s'apercevra que l'on aura perdu ce seul bien qui aurait fait tout notre bonheur. Saint Bernard nous dit, la grandeur de cette perte se mesure à l'infinité du souverain bien qu'est Dieu. On perd un être cher, c'est très douloureux, c'est très pénible, mais ce n'est pas un être infini. Mais Dieu, c'est l'être infini, et on perd le bien infini. Ainsi, le supplice de l'enfer ne consiste pas dans le feu qui dévore, ni dans la puanteur qui l'empeste, ni dans les hurlements sans cesse, continuels des damnés, ni dans l'aspect effrayant des démons, ni même dans la gêne de ce gouffre horrible où l'on est entassé les uns sur les autres sans pouvoir bouger. Ce qui fait l'enfer, c'est la douleur d'avoir perdu Dieu. Et on appelle cette peine la peine du damné. Cependant, par charité pour nous, le bon Dieu a mis le feu en enfer. Ça, on comprend. On sait ce que c'est. On s'imagine un peu, on ne voudrait pas se jeter dans un grand brasier qui n'est qu'une image du feu par rapport au feu de l'enfer. Parce qu'on ne peut pas comprendre cette peine du damné et qui est la plus terrible. Saint Bruno nous dit que quelques tourments qu'on ajoute à ceux que souffrent les damnés, tous ces tourments ensemble n'égalent jamais leur grande peine d'être privés de Dieu. Dieu a tant de belles qualités pour être aimé qu'il mérite un amour infini. Par son amabilité, il tient dans le ciel les bienheureux tellement remplis de joie et absorbés dans son amour qu'ils n'ont d'autre désir ni d'autre pensée que de l'aimer de toute leur force. Sur la terre, les pécheurs, par attachement à leurs indignes plaisirs, ils ferment les yeux pour ne pas connaître Dieu. Pour ne pas connaître l'amour que Dieu mérite. Mais dans l'enfer, le pécheur connaît Dieu tel qu'il est. Il connaît ce Dieu, ce bien infiniment aimable, et ce sera leur châtiment. Sur la terre, ils ont été dominés par l'amour des plaisirs sensuels. Ils s'en sont faits esclaves à tel point qu'ils n'ont pas voulu connaître Dieu, qu'ils n'ont pas cherché à approcher Dieu. Ils ne l'ont connu que d'une façon obscure. Ils n'ont pas voulu que la lumière se jette dans leur âme. C'est pourquoi il compte pour peu pour les pécheurs de perdre Dieu. Mais dans l'enfer, ils le connaîtront bien. Ils penseront sans cesse à Dieu. Et cette seule pensée d'avoir perdu volontairement le souverain bien fera son tourment durant toute l'éternité. Un docteur en théologie de Paris, après sa mort, est apparu à son évêque. Et il lui révéla qu'il était damné. Et l'évêque a posé quelques questions sur les damnés, sur ce qui se passe en enfer. Et à ces questions, il répondit qu'en enfer, on ne pense à autre chose qu'au malheur d'avoir perdu ce bien infini qu'est Dieu. Les damnés ont la connaissance du bonheur et de la gloire du paradis dont jouissent les bienheureux et dont ils se voient pour toujours exclus. Ils voient que leur âme a été faite pour jouir de ce bonheur, mais leur volonté les arrache. Ils sont continuellement déchirés. Cette âme qui est portée à aller vers Dieu parce qu'elle a été créée pour cela, elle désire son bien, son bonheur, et la volonté qui l'arrache, qui la tient en enfer. Ils sont déchirés. Imaginez lorsque la douleur déchire le cœur, les angoisses déchirent le cœur. Eh bien, eux, ils sont continuellement déchirés. Et ce qui augmente sa douleur, la douleur du pécheur, c'est de penser que c'est par sa faute. C'est par ma faute que je suis là. Et chacun de ces malheureux se dira, je pouvais, en aimant Dieu, avoir une vie heureuse sur la terre et je me serais acquis un bonheur immense dans l'éternité. Mais pour m'être obstiné dans mes vices, je dois demeurer dans ce lieu de tourment tant que Dieu sera Dieu, c'est-à-dire toujours. Jamais il ne sortira et toujours il restera. Et ce qui mettra le comble à la peine des damnés, ce sera la vue de tout ce que Dieu a fait pour le sauver. Il verra toutes les faveurs, toutes les lumières, toutes les invitations qu'il a reçues du Seigneur. Il verra surtout combien Jésus-Christ l'a aimé. Comment il m'a aimé autant. Combien Jésus-Christ a souffert pour lui, par amour pour lui. Et puis il verra qu'il est par sa faute non plus aimé de Dieu, mais haï de celui qu'il a tant aimé. Le damné voit que Dieu mérite un amour infini et qu'il ne peut plus l'aimer. Un jour que le démon chicanait Sainte Catherine de Gênes, il l'embêtait, celle-ci lui posa la question, « Qui es-tu ?» Et il répondit, « Je suis ce malheureux qui ne peut plus aimer Dieu. » Voilà, mes bien chers fidèles, ce ne sont pas des fables, cela. C'est la réalité du monde invisible qui existe encore bien plus réellement que ce monde visible que nous pouvons percevoir par nos sens. C'est ce que nous connaîtrons lorsque nous rendrons notre âme à Dieu. Que nous le voulions ou pas, que nous le croyons ou pas, ça ne changera pas la réalité. La réalité, ce n'est pas nous qui l'avons faite, c'est Dieu qui l'a créée et elle demeurera comme Dieu le voudra. Pourquoi pouvons-nous être certains de cela? Parce que Dieu nous l'a révélé. Et comme Dieu ne peut pas se tromper, il ne peut pas dire d'erreur. Et comme il ne veut pas nous tromper tant il nous aime, il ne peut pas nous avoir, menti. Cette parabole termine par ces phrases, cette phrase terrible. La traduction dans le missel d'aujourd'hui n'est pas excellente. Si on tire du latin, il est dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Nous sommes tous appelés à Dieu, à aller à ce banquet éternel. Mais est-ce que nous irons tous? Est-ce que nous sommes certains que tous qui sommes ici aujourd'hui, nous nous retrouverons au ciel un jour? On n'a pas la certitude. Car beaucoup voient le chemin qu'ils doivent prendre. Mais il y en a peu qui le prennent. Car beaucoup sont préoccupés par leur négoce, par leur maison à la campagne, par le qu'en dira-t-on, par le respect humain, ce sale respect humain qui retient tant d'âmes et qui les empêche d'aller à Dieu. Et c'est ce respect humain qui fera que Dieu rougira de cela devant son Père. Alors, mes bien chers fidèles, il faut écouter ce que nous dit saint Paul. Hein. Lui-même, tout saint Paul qu'il était, disait « J'opère mon salut avec crainte et tremblement. » Ne croyez pas ces mensonges qui vous disent « Mais le bon Dieu est bon. » C'est vrai que le bon Dieu est bon, ce n'est pas un mensonge. « Et alors tout le monde va au ciel. Il n'y a pas d'enfer. C'est une histoire des curés pour faire peur. » Ce n'est pas une histoire des curés, c'est la révélation de Dieu. Peur, oui, il faut en avoir peur de l'enfer. Il vaut mieux avoir peur de l'enfer et ne pas tomber que de s'en moquer et y tomber. Alors, mes bien chers fidèles, méditons un peu cette parabole où notre Seigneur nous fait comprendre ces grandes réalités. Voilà. Jetez-le dans les ténèbres extérieures, là où il y aura des pleurs et des grincements dedans. C'est l'enfer. Dieu nous le révèle. Il existe. Même si des prêtres aujourd'hui le disent qu'il n'existe plus. Ce sont des menteurs et des suppôts de Satan. Alors il faut prier la très sainte Vierge Marie pour demander la grâce. La grâce de rester fidèle jusqu'à la fin. La grâce de nous retrouver tous un jour au ciel. Prions les uns pour les autres à l'occasion de ce saint sacrifice de la messe. Supplions cette grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cette page de l'Évangile aujourd'hui est bien consolante pour nous, où nous voyons notre Sainte Vierge Marie, notre Seigneur invité à ses noces, et à l'occasion de ses noces, il se passa cet événement où le vin venait à manquer. Notre-Dame, s'étant aperçue, adresse cette parole à notre Seigneur. Ils n'ont plus de vin. Et on pourrait être un peu surpris de la réponse de notre Seigneur qu'il adresse à Notre-Dame. Qu'y a-t-il, femme, qu'y a-t-il entre vous et moi ? Mais Notre-Dame avait compris l'intention de notre Seigneur et c'est pourquoi elle adresse au serviteur en disant « Faites tout ce que mon fils vous dira. » Par cette réponse, notre Seigneur lui dit que son heure n'était pas encore venue. Notre Seigneur voulait dire que le temps destiné pour faire des miracles était celui où il devait parcourir la Judée en prêchant. Et justement, par ces miracles, il venait manifester que sa prédication venait du ciel. Il venait prouver qu'il était bien l'envoyé de Dieu. Ces miracles servaient de signature. Tandis qu'ici à Cana, il n'avait pas l'intention de se manifester, ni de manifester sa puissance. Cependant, eh bien, il accepta. Il consentit au vœu de sa très sainte mère et il changea l'eau qu'on avait mis dans les urnes en un vin délicieux. Ce fait nous porte à considérer combien est grande la puissance de Marie pour nous obtenir de Dieu les grâces que nous désirons et aussi combien est grande sa bonté pour subvenir à tous nos besoins. Pourquoi les prières de Marie ont-elles tant d'efficacité auprès de Dieu? Eh bien, c'est saint Antonin qui va nous donner la réponse. Et il nous dit, eh bien, parce qu'elle est mère. Les prières des saints sont les prières des serviteurs. Toutes les prières que les saints adressent à Dieu au ciel sont des prières des serviteurs. Mais les prières de Marie sont les prières d'une mère. Et de pas n'importe quelle mère. Elles ont une certaine force de commandement auprès de Jésus-Christ, qui aime tant sa mère. Et voilà pourquoi il est impossible que les prières de Marie éprouvent un refus. Le Fils a rendu sa mère toute puissante comme une créature peut l'être. Et elle obtient tout ce qu'elle demande. Saint Bernardin de Sienne dit que tout est soumis à l'empire de Marie et que Dieu lui-même, en quelque sorte, obéit à Marie. Sainte Brigitte avait souvent des visions, des révélations où notre Seigneur lui apparaissait. Elle a entendu un jour notre Seigneur qui disait à sa mère, à la très sainte Vierge Marie, « Demandez-moi ce que vous voulez, aucune de vos prières ne peut rester sans effet. Puisque vous ne m'avez rien refusé en vivant sur la terre, il est juste que je ne vous refuse rien maintenant que vous êtes avec moi dans le ciel. » Et saint Georges de Nicomédie nous dit que Jésus-Christ exauce toutes les prières de sa mère comme s'il voulait par là satisfaire à l'obligation qu'il a envers elle, car Marie lui donna la nature humaine par son consentement à la demande de l'ange Gabriel lors de l'Annonciation. Une autre fois, sainte Brigitte entendit notre Seigneur qui disait à Notre-Dame « Tous les pécheurs qui demandent miséricorde par votre intercession, avec la volonté de se corriger, seront exaucés. Si tout le paradis demandait à Dieu une grâce et que Marie en demanda une autre opposée au Seigneur, le Seigneur exaucerait Marie parce qu'il aime la bienheureuse Vierge Marie plus que tous les saints ensemble. » C'est une consolation pour les pécheurs de savoir que s'ils ont le désir de se corriger malgré leur faiblesse, en s'adressant à Notre-Dame, ils seront exaucés. Et dans ce récit de l'Évangile, on voit aussi combien la bonté de Marie est grande. Voilà. Elle voit que le vin vient à manquer et elle se rend compte que c'est une situation très humiliante pour les époux qui ont organisé cette fête. Que personne n'a demandé à la très sainte Vierge Marie de prier son fils d'éviter à ses époux cette honte. Mais le cœur de Marie, elle n'attend pas ce moment-là. Elle ne peut pas avoir une affliction sans y compatir. Et bien ce cœur la porta à demander le miracle à son divin fils. Et or dit Saint Bernardin de Sienne, si cette bienfaisante souveraine a daigné faire un tel acte sans en être priée, que ne fera-t-elle pas quand on la priera? Saint Bonaventure, lui, nous fait remarquer que comme Notre-Dame était si miséricordieuse pendant qu'elle était en ce monde, elle doit être bien plus encore maintenant au paradis. Car dans le ciel, elle voit beaucoup mieux nos besoins que lorsqu'elle était ici-bas. Et autant sa compassion envers nous s'y est accrue, autant aussi s'est accru son désir de nous soulager. Quand un pécheur recourt à cette grande avocate, comme l'a déclaré Sainte Brigitte, elle ne regarde pas les péchés dont il est chargé, mais seulement l'intention qui l'amène. S'il vient avec l'intention de se corriger, elle l'accueille, et par son intercession, elle le guérit et le sauve. Un jour, Notre-Dame disait à Sainte Brigitte, « Malheureux et malheureux éternellement sera le pécheur qui, pouvant en cette vie se recommander à moi, moi qui ai le pouvoir et le désir de le sauver, et ne le fait pas, alors il se damne. » Saint Bonaventure appelle Notre-Dame le salut de ceux qui l'invoquent. Marie étant la mère de la toute-puissance et de la miséricorde, il ne peut lui manquer ni le pouvoir, ni la volonté de sauver son serviteur. On raconte au sujet de Marie l'Égyptienne, avant sa conversion, elle avait mené une vie dissolue, une vie remplie de péchés. Et un jour, passant à Jérusalem, près de l'église de Jérusalem, où il y avait la fête de la Sainte Croix, elle voulut entrer dans l'église. La porte était grande ouverte, les foules entraient pour cette cérémonie, pour cette célébration, pour cette fête. Et elle, arrivée près de la porte, elle sentit comme une force invisible qui la retenait. Elle a beau essayer en vain de rentrer, elle ne pouvait pas entrer. Le bon Dieu avait permis cela pour qu'elle rentre en elle-même, qu'elle commence à réfléchir un peu sur elle-même. Alors elle se retire à un coin du parvis et là elle voit une image de la très sainte Vierge Marie. Alors elle se confie à elle, la prenant pour sa mère, pour sa protectrice, lui fait une prière fervente et à ce moment-là elle sent en elle des forces revenir et le désir d'entrer dans cette église. Elle sera à nouveau devant la porte et là elle put entrer dans l'église. La première des choses, bien sûr, elle alla se confesser avec un profond regret de tout le mal qu'elle avait commis, tout ce que bon Dieu lui a fait comprendre, toute sa vie de désordre qu'elle a eue. Et ensuite, elle communia et se retira pour vivre une vie de pénitence, de mortification dans le désert pendant 47 ans, pour faire pénitence de sa vie passée. Et elle s'est sanctifiée ainsi, elle est Sainte Marie l'Égyptienne. Il y a beaucoup d'autres faits que l'on pourrait raconter où les pécheurs, grâce à Notre-Dame, ont pu revenir, ont pu se rapprocher de Dieu. Le bon Dieu ne voulait pas leur donner des grâces autrement que par l'intercession de sa très sainte mère. Alors c'est pour nous une grande consolation, voyez. Il faut que nous aimions Notre-Dame, que nous ayons une tendre dévotion envers elle. Non pas seulement quand on est dans les difficultés, quand on a besoin de son secours. Ce ne serait pas très honnête, c'est mieux que rien, mais il faudrait que nous l'aimions, voyez. Et que nous n'ayons jamais de désespoir, il n'y a jamais de découragement à avoir avec une pareille intercessrice auprès de Dieu. Alors recommandons-nous bien en elle. Pensons souvent à cet événement de Cana, voyez, où Notre-Dame a fait faire un miracle à notre Seigneur alors qu'il n'était pas dans son plan de le faire à ce moment-là. Eh bien, pour elle, il le fit volontiers. Voilà. Et elle le fit, elle demanda ce miracle pour éviter la honte de ses époux. Voyez quelle délicatesse de la très sainte Vierge Marie. Qu'est-ce que ça d'éviter la honte des époux à côté du salut d'une âme? C'est bien davantage. Eh bien voilà, il ne faut jamais désespérer. Nous avons, avec une telle mère que nous avons au ciel, une telle reine toute puissante. Aimons-la, grandissons dans cette dévotion. Le diable sait très bien que la dévotion à la Sainte Vierge nous attire la protection de Notre-Dame. Alors il va essayer de nous faire éviter cette dévotion, de nous la faire négliger, de ne pas trop y penser. Voilà. Non, aimons-la. Croyons en cette puissance de la très Sainte Vierge Marie. Oui, le bon Dieu lui semble être redevable et ne peut rien lui refuser. Et elle, si bonne, si délicate, ne peut rien refuser à tout pécheur qu'il soit. Voyez. Mais il faut cette vertu. Voilà, il faut ce désir de se corriger et de ne pas continuer dans une voie mauvaise. Sinon, la Sainte Vierge ne sera pas attirée à ces pécheurs qui ne veulent pas se corriger. Voilà, confions-nous donc bien à la très Sainte Vierge Marie. Et pour ceux qui sont esclaves de défauts ou d'autres, eh bien qu'ils aient recours à elle. Voilà, ce ne sera pas aussi peut-être immédiat que comme quand on allume la lumière, hein, mais ça dépendra d'une grâce qu'elle voudra bien nous donner. Mais il faut persévérer. Mais il faut croire aussi, avoir confiance en la puissance de Notre-Dame. Voilà. Aimons-la, prions-la, ayons cette dévotion envers elle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Hier, nous avons célébré cette belle fête du Christ-Roi. Et aujourd'hui, eh bien, dans l'office des matines, l'Église met sur les lèvres du prêtre ces paroles d'adoration, l'adoration à ce roi des rois qui est la couronne des saints. Si l'Église nous fait célébrer la fête du Christ-Roi avant la fête de Toussaint, c'est justement pour montrer que c'est grâce à lui que tous ces saints sont arrivés au ciel, d'une part, et ce sont ces saints qui se sont volontiers fait les serviteurs de ce Dieu, de ce roi. Et ainsi, ils ont maintenant cette récompense promise aux bons et fidèles serviteurs de ce roi. Et aujourd'hui, l'Église, eh bien, si on peut prendre cette image, elle tire un peu le rideau pour nous montrer tous ces saints du ciel. Bien sûr, chaque année, tous les jours de l'année, nous avons des saints que nous honorons, que nous vénérons. Mais aujourd'hui, on n'arrivera pas à faire tout le tour de tous ces saints. Et c'est pourquoi aujourd'hui, cette fête permet de voir tous ces saints du ciel. Et de les louer, de les vénérer. Et pourquoi l'Église fait cela? C'est bien pour nous encourager, pour nous donner le désir de persévérer dans cette voie étroite. Car il ne faut pas l'oublier, pour arriver, c'est toujours une voie étroite, une voie difficile, une voie remplie d'obstacles, d'épines, de ronces, pour y arriver. Et beaucoup voient le chemin, mais peu l'empruntent, nous dit notre Seigneur. Alors cette fête est là pour nous encourager. Allons, courage! Voilà, il y en a qui sont arrivés, donc s'il y en a qui sont arrivés, vous aussi, vous pouvez y arriver. Nous aussi, nous pouvons y arriver. Voyez, nous dit l'Église, tous ces héros de la foi, ces héros de la vérité, voilà ces hommes dont le monde n'était pas digne, et qui, en méprisant le monde, se sont rendus dignes de Dieu. Voilà ceux qui remplissent le ciel. Il y a trois choses qui relèvent ou qui rendent quelqu'un de recommandable. La première chose, c'est la naissance. Quelqu'un qui naît d'une famille, d'une bonne famille, voyez, ou quelqu'un qui naît d'une famille royale, d'une famille princière, mais ça donne déjà une note à celui-ci. Et puis, les vertus de quelqu'un aussi donnent une certaine excellence à cette personne. Si ses vertus sont éminentes, alors on admire quelqu'un. Ou bien, la troisième chose, les emplois. Ce que fait cette personne, si ses emplois sont éclatants et glorieux, eh bien, voilà, cette personne elle se distinguera, elle sera relevée. Eh bien, ces trois choses se trouvent avec un merveilleux avantage dans tous ces habitants du ciel. Leur naissance. La naissance de ces êtres dans le ciel, de ces habitants du ciel, est très illustre, puisqu'ils sont tous nés de Dieu. Et ils portent tous l'auguste qualité de fils de Dieu, de frère de Jésus-Christ et du temple du Saint-Esprit. Mais alors, vous allez me dire, mais nous aussi, nous avons ces titres, puisque par le baptême, nous sommes devenus les fils de Dieu, les frères de notre Seigneur Jésus-Christ et les temples du Saint-Esprit. Alors, quelle différence ? Ah, il y a quand même une différence. Eux, ils possèdent ces titres d'une façon bien plus noble que nous. Et puis, la grâce qui les fait enfants de Dieu est une grâce dominante qui remplit toutes leurs facultés sans la faiblesse que nous, ici-bas, nous connaissons. Cette grâce, ces titres, ils ne pourront jamais les perdre. Tandis que nous, malheureusement, par un péché mortel, nous pouvons tout perdre, ces titres. Cette grâce fait qu'ils sont actuellement les héritiers de leur Père, qui les met dans la possession de son royaume. Nous aussi, en ayant ce titre, nous serons les héritiers de ce royaume. Mais pas encore. Comme les petits-enfants sont les héritiers de leurs parents, mais si les parents perdent leurs biens, les enfants sont héritiers de plus rien. Tandis que les saints du ciel, là, ils sont héritiers, ils possèdent ce royaume qui a été promis et qui nous est promis aussi si nous avons ces titres. Deuxième chose qui fait l'excellence de quelqu'un, c'est leur vertu. Eh bien, la vertu de ces habitants du ciel est suréminente. Ils les possèdent tous à un degré héroïque. Ah, si on pouvait se représenter. Oui, qui est-ce qui pourrait se représenter leur vertu? Par exemple, la plénitude de leur sagesse. Quand on lit la vie des saints, surtout certains saints, qui ont excellé dans cette vertu de sagesse, on est émerveillé. Mais elle était à un degré bien inférieur à celle qu'ont les habitants du ciel. Oui. Ils ont la plénitude de la sagesse. Et puis, l'ardeur de leur amour qu'ils ont maintenant. L'ardeur de leur amour pour le bon Dieu et pour le prochain. Oh oui. Aussi, à la lecture de la vie des saints, on est des fois enthousiasmé de voir combien ces saints aimaient le bon Dieu, ce qu'ils ont réussi à faire par amour pour Dieu. Ces martyrs qui ont préféré souffrir ces tourments terribles par amour pour Dieu. Voilà. Et bien maintenant, qu'est-ce que ça doit être cet amour de Dieu qu'ils ont au ciel ? Et puis, aussi, l'étendue de leur gratitude envers Dieu. Quelles actions de grâce ils doivent rendre à Dieu de ce qu'ils ont, de ce que le bon Dieu leur a obtenu, ce royaume. Ah oui, si l'on pouvait voir, on serait bien sûr confondu à côté de notre médiocrité. Oui. Et puis, la ferveur de leurs ailes. Oh, qu'est-ce qu'ils sont zélés, ces habitants du ciel. Oui. Si l'on pouvait voir tout ça. Et puis, la profondeur de leur humilité. Bien sûr, ils ont toutes ces vertus, toutes ces qualités, ils sont au ciel. Ils ont mérité en quelque sorte ce ciel. Cependant, ils sont d'une grande humilité. Ils reconnaissent que tous ces bienfaits leur viennent de Dieu. Qu'ils ont été. Que Dieu a en somme tout fait pour qu'ils arrivent au ciel. Voilà. Ils ont cette profonde humilité, cette vérité qui reconnaît ce qu'il en est. Et puis, l'excellence de leur pureté. Ah oui, si l'on pouvait voir la pureté de ces habitants du ciel, on ne pourrait pas supporter. Notre nature humaine ne pourrait pas supporter cette vision. de la pureté des saints. Nous serions si ravis de bonheur que notre cœur ne pourrait pas résister à cette émotion. Voilà. Et puis, le calme et la paix de leur cœur. Voilà, plus d'agitation, plus d'inquiétude, plus de... Non, c'est la grande paix, le grand calme. Ils n'ont plus de crainte de perdre ce bonheur qu'ils ont maintenant. Et puis la perfection de leur justice, la grandeur de leur miséricorde. Voyez. En lisant aussi la vie de certains saints, par exemple Saint Jean Gualbert, qui était rempli de haine pour celui qui avait tué son frère, et qui un jour rencontre cet ennemi, alors qu'il était à cheval avec les armes, il était chevalier, et il rencontre son ennemi sur un chemin qui ne pouvait lui échapper. Lui, déjà plein de haine, de rancune, se précipitait à fondre sur lui, à le couper en morceaux. Et ce malheureux s'est aperçu qu'il avait en face de lui le frère de celui qu'il avait tué, tombe à genoux et lui demande miséricorde par l'amour de Jésus. C'était un vendredi saint qui avait donné sa vie pour nous. Cela l'a porté à faire miséricorde, à regretter, et ça a été l'occasion pour lui d'une grande grâce. Bon. Ou d'autres exemples de miséricorde qui sont admirables. Eh bien, ces saints du ciel maintenant, de quelle miséricorde ils ont dans leurs âmes. Et l'esprit d'union, l'esprit de concorde qui règne entre eux. Voilà. Combien ces êtres doivent être unis en tout. Il n'y a plus de petits froids, il n'y a plus de petites différences, il n'y a plus de petites méfiances, rien. Non, c'est fini. Ça doit être merveilleux. Et puis tout le reste. Il y en a des choses qu'on pourrait dire encore sur leurs vertus, voyez. Eh bien, cela les élève, voyez, par leurs vertus. La troisième chose qui rend quelqu'un appréciable, qui distingue quelqu'un, eh bien, c'est leur emploi. Ce qu'ils font. Il n'y a rien de si éclatant et de si glorieux de l'emploi que font les saints. Et quel est donc leur emploi? Que font-ils donc au ciel? Saint Augustin réduit cela, leur emploi, toute leur activité, à trois choses. Et qui sont sans doute les principaux. La première, voir Dieu. Oui, c'est évident. Ils voient Dieu. La deuxième, c'est aimer Dieu. Et la troisième, c'est louer Dieu. Voilà. Tout se résume dans ces trois œuvres, ces trois actions. Voir Dieu face à face, intuitivement, tel qu'il est lui-même. Nous, sur la terre, on essaye de comprendre un peu Dieu, de nous approcher de Dieu, de voir Dieu par ses perfections qu'on voit dans les créatures. On essaie de voir la beauté de Dieu, voilà, sur ses beaux paysages, surtout en automne. Ou par la majesté du firmament, des montagnes. Voilà, on essaie de voir Dieu. Et puis par la révélation, alors on approche encore davantage le bon Dieu, parce qu'il l'a dit de lui-même. Mais eux, ils le voient face à face, tel qu'il est, sans voile. Nous, on essaie de le voir par les yeux de notre foi. Oui, qu'est-ce que ça doit être? Voyez, aimer Dieu pleinement, de toute leur force, de tout leur être, de toute leur âme. Déjà sur la terre, notre Seigneur nous fait un commandement, Dieu nous fait un commandement, nous devons aimer Dieu de toute notre force, de toute notre âme, de tout notre esprit, etc. On essaye tant qu'on peut, comme on peut, on est bien maladroit, on est bien gauche, mais enfin on essaye. Mais eux, ils aiment Dieu vraiment, de tout leur être, cet être qui a été glorifié. Oui, ils aiment de toute leur force, de toute leur âme. Et la troisième de ces œuvres, c'est louer Dieu. Nous aussi sur la terre, on essaie de louer le bon Dieu dans nos prières, bien souvent distraites, on a des fois la tête ailleurs qui se promène, et puis on essaye par notre bouche de louer le bon Dieu, enfin on fait notre possible, pourvu que ce ne soit pas des distractions volontaires. Mais là-haut, il loue sans se fatiguer. et il le loue de la manière digne de Dieu. Nous, nos louanges sont bien imparfaites, mais eux, les louanges qu'ils adressent à Dieu, elles sont faites de la manière digne de Dieu. Qu'est-ce que cela doit être? Voilà ce que font les saints dans le ciel. Et ils le feront pour l'éternité. Ils le feront toujours sans se lasser. Sans se dire un jour, « Oh ben là, on en a assez fait, on en a marre, hein, on ne peut pas trop faire quand même. » Non, jamais cela leur viendra à l'esprit. Ils ne se lasseront jamais, ils ne seront jamais fatigués. Et d'ailleurs, plus ils le feront, plus cela les remplit de bonheur. Ils trouvent le bonheur à cela. Ils sont pleinement heureux, pleinement heureux. Un bonheur dont on ne peut pas exprimer les charmes ni les douceurs. Le roi David, vous savez que le roi David a écrit beaucoup de psaumes, pas tous, mais une grande partie des psaumes, des 150 psaumes, ont été composés par le roi David, inspirés du Saint-Esprit, bien sûr. Eh bien, le roi David s'écriait, « Ô Seigneur, ô mon Dieu, que les délices que vous avez réservées pour ceux qui vous craignent sont abondantes et excessives. » Voilà, « sont abondantes et excessives. » Saint Paul, après le prophète Isaïe, nous assure que les biens de l'au-delà, les biens du ciel, sont si éminents que l'œil n'a jamais rien vu, que l'oreille n'a jamais rien entendu et que le cœur de l'homme n'a jamais rien conçu qui leur soit comparable. Il n'y a rien sur cette terre qui ne soit comparable à ces biens du ciel. Saint Augustin dit dans le même sens que cette splendeur, que cette beauté et cet éclat qui nous sont préparés et dont les saints jouissent déjà, sont au-dessus de tous les discours et de toutes les pensées des hommes. Donc, je n'arriverai jamais à vous exprimer le bonheur qu'éprouvent les bienheureux. Elle dépasse toute la gloire du roi Salomon. Lisez un peu le livre de Salomon dans l'Ancien Testament et vous serez étonnés de voir cette gloire de Salomon. Jamais personne n'aura égalé la gloire de Salomon sur la terre. Et il y a bien ce bonheur des bienheureux, ces biens des bienheureux dépassent toute la magnificence des empereurs, ces empereurs romains qui ne se privaient de rien, qui avaient ce qu'il y avait de plus excellent qu'on pouvait avoir sur la terre. Eh bien, les bienheureux ont plus que cela. Les bienheureux ont davantage que toutes les richesses des rois, que toute la grandeur des triomphes ici-bas, que tous les plaisirs des sens et que toutes les raretés de l'univers. Oui, rien ne peut égaler ce bonheur des bienheureux. Sainte Catherine de Sienne a eu l'occasion un jour de voir un échantillon du ciel. Oh, un échantillon, hein, c'est pas grand-chose, un échantillon. Eh bien, elle ne pouvait s'empêcher de s'écrier « J'ai vu des merveilles, j'ai vu des merveilles. » Alors, son confesseur, un peu désireux de savoir ce qu'elle avait vu, la pria de lui expliquer et elle lui répondit « On peut aimer cette béatitude. » On peut la désirer avec ardeur, on peut soupirer après elle, mais il est impossible d'en former des pensées, ni même d'en faire des discours qui correspondent à son excellence. Sainte Thérèse d'Avila, elle avait aussi vu quelques rayons de ce bonheur de l'éternité. Et elle écrit ça dans le livre de sa vie. Elle dit, « Les choses que je voyais étaient si grandes et si admirables que la moindre suffirait pour transporter une âme et pour lui imprimer un extrême mépris de tout ce qui se voit ici-bas. » Un extrême mépris de tout ce qui se voit ici-bas. Il n'est point d'imagination, donc ça peut pas, on ne peut pas atteindre, on ne peut même pas s'imaginer. Il n'est point d'imagination, ni d'esprit qui puisse se les figurer. Leur vue me causa un plaisir si exquis et embauma mes sens d'un contentement si suave que je n'ai point de parole pour les représenter. Et notre Seigneur, me faisant voir cela, me disait : Regarde, ma fille, ce que perdent ceux qui m'offensent, et ne manque pas de les en avertir. Il me demeura, poursuit sainte Thérèse, il me demeura de là un tel dégoût des biens et des satisfactions de ce monde que tout ne me paraissait plus que fumée, mensonge et vanité. Quelles sont bien justes ces paroles de Salomon qui dit « Ô vanité des vanités, tout est vanité. » Alors, eh bien, chers fidèles, si un seul rayon, une image faible et imparfaite, un échantillon de la béatitude que Dieu faisait voir à ses saints, en passant, attention, ce n'était qu'en passant, ça ne durait qu'un clin d'œil, eh bien, si cela les portait à en parler de la sorte, mais quel est ce bonheur en lui-même ? Quel est ce bonheur en lui-même que les saints possèdent ? Non pas dans les ténèbres, mais en plénitude. Et mes bien chers fidèles, ces saints ont vécu comme nous. Ils ont été sur la terre quelques années. Ils ont désiré voir ce ciel. Ils en ont parlé. On leur en a parlé. Et maintenant, ils y sont, dans ce ciel. Voyez. Maintenant, ils jouissent de ce bonheur. Eh bien, nous aussi, il nous faut y arriver. Et des générations plus tard feront la même chose, la même constatation. Ils diront, oui, en parlant du ciel, nos ancêtres, il y en a de ceux qui y sont dans le ciel. Et en parlant de leurs ancêtres, eh bien, ce sera nous. Alors, est-ce qu'on sera au ciel? Alors maintenant, il nous faut nous préparer. Voyez, c'est pas facile, c'est vrai. Mais justement, si l'Église nous fait entrevoir ce ciel, c'est pour nous encourager. Qu'est-ce que quelques peccadilles, qu'est-ce que quelques petites choses là, quelques disputes, quelques humiliations. Oh mon Dieu, à côté de ce bonheur que le bon Dieu nous offre, c'est rien. On sourira. Voyez. Alors, relisez un peu cet évangile aujourd'hui. Bienheureux. Voilà quels sont les bienheureux de Dieu. Ce sont justement ceux qui ne sont pas les bienheureux aux yeux du monde. Mais les bienheureux de Dieu sont indignes de ce monde, mais ils sont dignes de Dieu. Alors, mes bien chers fidèles, voilà, adressons nos prières à toute cette cour céleste. Voilà, demandons à Notre-Dame, à tous ces saints, eh bien, que nous aussi, nous ayons ce courage, ce renoncement qui est nécessaire pour y arriver. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.